L'invité de la rédaction.
Serions-nous au bord d'une nouvelle guerre froide? Y serions-nous déjà plongés? Chine et États-Unis, plus que jamais en effet, montrent les dents ou les tweets quand ils ne s'invectivent pas directement, agités l'un et l'autre par le terrible agent révélateur que constitue la Covid-19. Mais si la tension monte, ne pourrait-elle pas être avant tout destinée à assurer à l'un comme à l'autre le crédit nécessaire à l'édifice de son propre pouvoir? Permettre aux deux dirigeants que sont Donald Trump et Xi Jinping de dépasser leurs contradictions internes en jetant l'huile sur le feu d'un conflit auquel personne au fond ne croit, sauf les Européens peut-être. Le concert des nations peut-il se jouer à l'ombre de la cacophonie des grandes puissances? Que deviennent les rêves de coopérations internationales, de multilatéralisme et de solidarité à l'heure du Brexit et de la si douloureuse mise à jour d'une réponse commune à la pandémie? Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Benjamin Haddad, directeur Europe du très renommé think tank de l'Atlantic Council à Washington. Il est l'auteur du Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, publiées chez Grasset en 2019. Benjamin Haddad, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que vous êtes au saut du lit, il est 6h30 à Washington. Je ne peux donc que vous remercier chaleureusement de nous rejoindre sur RCJ pour évoquer donc ce qui se trame dans le monde bouleversé par la pandémie, à commencer par l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, ces deux premières puissances mondiales qui, depuis des mois, s'insultent, se provoquent, se mentent et semblent tentées par l'escalade. Est-ce bien le cas, Benjamin Haddad? Pensez-vous que nous soyons bel et bien arrivés au bord d'une nouvelle ère de la guerre froide?
Alors, vous savez, on a beaucoup spéculé avec le Covid-19 sur la question de savoir si ça ouvrait un nouveau monde, une nouvelle ère des relations internationales. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à estimer qu'au fond, c'est une accélération de tendances qui étaient déjà préexistantes. Et c'est clairement le cas quand on voit la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. On voyait déjà depuis quelques années, ça avait été d'ailleurs l'un des thèmes marquants de l'élection et du mandat de Donald Trump, mais c'était déjà le cas avant, une accélération des tensions et une centralité de plus en plus importante aux yeux des stratèges américains de Washington, démocrates comme républicains, de la question chinoise. Puisqu'il faut rappeler que c'était Barack Obama déjà qui avait parlé pour la politique étrangère américaine d'un pivot vers l'Asie et donc d'un retrait progressif d'Europe et des États-Unis pour se concentrer sur les questions asiatiques, notamment sur la question de la rivalité avec la Chine. Et puis c'était l'administration Obama, dans sa dernière année aussi, qui avait négocié le TPP, le traité transpacifique, donc un traité commercial qui incluait tous les grands partenaires américains d'Asie, sauf la Chine, qui était aussi une façon pour les États-Unis de s'ancrer sur le continent asiatique, non seulement par le biais militaire, mais aussi par le biais commercial et économique. Alors évidemment, on a vu cette rivalité qui s'est accélérée ces derniers mois avec le Covid-19, juste après d'ailleurs la négociation et la conclusion de ce qu'on appelle l'accord phase 1 commercial entre les États-Unis et la Chine. Vous savez, Donald Trump est très concentré sur, très focalisé sur la question de la balance commerciale américaine. Il considère que les États-Unis se font berner en fait par certains de leurs partenaires commerciaux comme la Chine qui triche pour subventionner, soutenir leurs grandes entreprises, leur économie, qui espionne aussi les entreprises américaines, qui ne respectent pas les règles de propriété intellectuelle, par exemple. Ce sont d'ailleurs aussi des critiques qui sont adressées par l'Union européenne à la Chine. Et donc, les États-Unis, sous Trump, ont imposé des tarifs douaniers à la Chine ces dernières années pour essayer de pousser la Chine à changer de comportement commercial. Un accord phase 1 avait été conclu à l'hiver, juste avant l'arrivée du Covid. Et c'est vrai que cette légère embellie des relations que l'on avait pu voir à ce moment-là s'est clairement détériorée en raison de la responsabilité de la Chine dans l'émergence du virus et surtout dans le fait d'avoir caché la réalité de ce virus dans les premières semaines, d'avoir menti sur l'étendue et donc de ne pas avoir coopéré en toute transparence avec les Européens et les États-Unis et les organisations internationales pour contrer le virus. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, et un dernier point, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'au-delà de Donald Trump, même avec une administration Biden, la méthode sera différente. Mais la question de la rivalité avec la Chine sera tout aussi primordiale pour les États-Unis.
Alors, en tout cas, si on peut revenir, puisque là, vous nous donnez déjà beaucoup d'éléments de réflexion sur cette relation entre la Chine et les États-Unis, est-ce que, concrètement, comme vous l'avez rappelé, c'est une rivalité qui remonte de longue date et qui évidemment n'est pas née avec la pandémie, comment celle-ci a littéralement agité, agi sur ses intérêts? Est-ce que c'est une simple mise en scène de plus, ou est-ce que sur ce terrain sanitaire, est-ce qu'aujourd'hui le leadership sur la question sanitaire, c'est un enjeu de pouvoir fondamental pour les deux puissances?
Alors oui, le leadership sur les questions sanitaires, le leadership dans les organisations internationales, sur les grands sujets comme les pandémies, c'est évidemment un sujet de leadership. Et on a vu justement d'ailleurs la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui s'est agitée à l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis ont décidé de se retirer de l'OMS, critiquant l'OMS pour sa mauvaise gestion de la pandémie. Il faut rappeler que le directeur général de l'OMS, dans les premières semaines, avait par exemple eu des doutes sur le fait que le virus Covid-19 puisse être transmissible de personne à personne. Il avait aussi émis félicité la Chine pour sa gestion de la pandémie. Mais fondamentalement, ce qui est en train de se jouer, c'est l'influence chinoise dans les organisations internationales. C'est les États-Unis qui ont le sentiment de perdre en influence dans ces grands forums, qui devraient plutôt...
Mais qui menace de s'en retirer, si vous parlez... Excuse-moi, je vous coupe, Benjamin Haddad, mais là, vous parlez, par exemple, typiquement de ce qui se passe autour de l'OMS. C'est un jeu ambivalent, puisque, typiquement, la présidence américaine menace de se retirer de l'OMS.
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'influence chinoise dans ces organisations est une conséquence déjà d'un retrait progressif des États-Unis ces dernières années, qui s'est évidemment accéléré avec l'administration Trump, qui a une approche unilatérale et nationaliste très hostile aux organisations internationales. L'administration Trump veut punir l'OMS, retire aussi ses financements. Il faut rappeler tout de même que les États-Unis en sont le premier contributeur, donc vous poussez l'OMS à se réformer de cette façon, ou sinon à imaginer des alternatives et des organisations alternatives. Mais on ne voit pas aujourd'hui ce que propose l'administration Trump. Donc effectivement, j'ai tendance à penser que cette approche sera contre-productive et ne fera que renforcer le problème que viennent dénoncer les États-Unis. Donc on a vu effectivement que sur ces questions sanitaires et multilatérales, on l'a vu aussi sur la question des masques, on l'a vu avec le fameux soft power que les Chinois ont tenté de mobiliser, notamment dans les premières semaines, pour se rattraper en envoyant des masques et des kits de tests en Europe. Je pense que cet effort de propagande, d'ailleurs, a fini par se retourner contre la Chine, parce qu'il a été un peu trop visible pour les opinions publiques européennes. Mais c'est vrai que sur tous ces sujets-là, le Covid-19 a été un théâtre d'affrontement de plus entre les États-Unis et la Chine.
Et ça, c'est ce que vous soulignez déjà au début de votre intervention. Donc, le sanitaire parmi d'autres, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces différents terrains sur lesquels la Chine et les États-Unis sont directement en confrontation et en rivalité? Vous l'avez cité, ce sont certains accords commerciaux très importants qui ont d'ailleurs continué à être signés même une fois la pandémie et la crise pandémique commencée, mais aussi géostratégiques, aussi sur des questions technologiques de pointe. Quels sont vraiment ces domaines dans lesquels il est intéressant d'étudier cette confrontation sino-américaine?
Oui, alors vous en avez cité quelques-uns, et c'est vrai que c'est une rivalité qui est assez globale, exhaustive.
Protéiforme.
Protéiforme, et à certains égards, les plus que celle de la guerre froide avec l'Union soviétique, puisqu'en fait, la Chine est beaucoup plus intégrée, imbriquée dans le commerce international et la mondialisation que ne l'était, par exemple, l'Union soviétique avec des pays comme les pays européens ou les États-Unis. Il y a une dimension, évidemment, commercial, vous l'avez dit, la Chine a largement profité ces 21 dernières années de l'essor de la globalisation et est devenue un acteur central du commerce international, mais avec de très nombreuses critiques qui lui sont adressées devant l'opacité de son économie, les inégalités d'accès aux entreprises étrangères face aux entreprises chinoises qui ont accès à des marchés américains et européens. On a vu aussi des questions plus militaro-stratégiques, avec notamment des ambitions croissantes de la Chine en mer de Chine du Sud, les rivalités sur les eaux maritimes avec un certain nombre de ses voisins, ce qui a été un sujet vraiment pour les États-Unis dans la région. Une rivalité d'ordre idéologique, évidemment, notamment sous Xi Jinping, avec un durcissement autoritaire du régime à un modèle qu'il tente de promouvoir et d'exporter. Et vraiment, d'ailleurs, cette rivalité s'est accélérée ces dernières années sous le règne de Xi Jinping, qui a renforcé les ambitions de la Chine. Et on le voit notamment avec le projet des nouvelles routes de la soie, ce grand projet de financement d'infrastructures à travers l'Eurasie, qui montre vraiment maintenant l'ambition de la Chine de devenir un acteur global. Au fond, ce qu'on voit ici, et c'est ce que j'appelle dans mon livre la fin des illusions, c'est la fin du rêve de ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire l'idée qu'avec la mondialisation économique, c'est un thème qui était très populaire dans les années 90, notamment après la fin de la guerre froide, on verrait une forme de convergence des régimes vers le modèle de démocratie libérale. Que l'intégration de la Chine dans les échanges permettrait progressivement au régime de s'ouvrir, il s'était ouvert sur le plan économique, et donc la logique aurait voulu que s'en suive une ouverture et une libéralisation de forme politique. Or, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est l'inverse. C'est une forme de durcissement à la fois sur le plan intérieur, autour de la personne de Xi Jinping, du régime, mais aussi un durcissement et une forme de confrontation sur le plan international. C'est en fait ce que prédisaient un certain nombre d'auteurs, en revanche plus pessimistes déjà depuis certaines années, estimant et craignant que les États-Unis et la Chine tomberaient dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide, c'est cet auteur grec qui a écrit la fameuse guerre du Péloponnèse, relatant le conflit entre Athènes et Sparte, et on a tiré une théorie en relations internationales des conflits presque inévitables entre une grande puissance dominante mais déclinante, qui serait dans ce cas les États-Unis, et une puissance émergente ambitieuse, la Chine, qui viennent finalement à se confronter. Est-ce qu'on est ici en face d'un conflit inévitable? Peut-être pas. Il y a aussi beaucoup de voies de coopération. C'est d'ailleurs le message que c'est les Européens sur la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, et un certain nombre d'enjeux globaux, et la question sanitaire aurait pu d'ailleurs être un sujet de coopération. Mais c'est vrai qu'on voit un grand nombre de théâtres d'affrontement aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Et un dernier point, avec une vision assez étroite de la part de l'administration Trump, et surtout de la part du président Trump, qui s'est essentiellement focalisé sur les questions commerciales, et notamment sur les questions de la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec la volonté de la rééquilibrer en faveur des États-Unis, et dans une certaine mesure des questions technologiques et d'infrastructures comme la 5G, notamment le déploiement de la 5G en Europe. Je pense que si une administration Biden venait à prendre le pouvoir, on aura peut-être une approche là ici plus protéiforme, qui inclura d'ailleurs justement les alliés, notamment les alliés européens, dans la stratégie américaine. Une meilleure intégration des outils stratégiques et économiques, en tout cas c'est ce qu'on entend beaucoup de la part des conseillers de politique étrangère de Biden.
Mais alors, si on vous entend bien, Benjamin Haddad, je me permets justement, puisqu'en plus vous citiez Thucydide qui se livre également à une extraordinaire description de la peste d'Athènes, alors même que justement le conflit la parcourt. Vous dites finalement, est-ce que, et même dans cet écho de la Chine qui n'est pas la Russie, qui n'est pas le monde soviétique de la guerre froide passée, comme si les relations internationales ne pouvaient pas se passer de cet imaginaire du conflit, ne pouvaient pas effectivement s'émanciper de cet imaginaire de la confrontation, et qui finalement est exactement figuré par la notion de guerre froide. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne s'envoie pas de bombes et de chars, qu'on ne franchit pas les frontières, mais qu'on s'affronte comme un moyen de survivre, un moyen de justement de dépasser, y compris même les épisodes de peste.
C'est l'un des points les plus connus de l'école réaliste, une forme d'école plus pessimiste et tragique de compréhension de l'histoire et des relations internationales. C'est effectivement celle de l'inévitabilité du conflit entre...
Le conflit moteur de l'histoire, oui.
Moteur de l'histoire, ou en tout cas inévitable, impossible dans une certaine mesure à transcender. Alors, ce n'est pas complètement vrai quand on voit... Aujourd'hui, le continent européen a pris de grandes tragédies, mais qui a toujours, dans une certaine mesure, réussi à transformer, en tout cas, les conflits militaires en des négociations et des formes d'interdépendance institutionnelle et économique. Mais c'est d'ailleurs l'une des faiblesses de l'Union européenne sur la scène internationale. C'est qu'elle a réussi en son sein à transcender et transformer les conflits, les rapports de force en des formes de négociations diplomatiques, économiques, en règles du droit, mais que malheureusement ces règles aujourd'hui ne sont pas appliquées sur la scène internationale. Et qu'elle doit penser différemment dans ses relations avec notamment des pays comme la Russie et la Chine qui sont restés à une vision plus traditionnelle des rapports de force géopolitiques.
Mais si on continue, parce qu'on va y venir justement à la manière dont l'Europe trouve sa place dans ce type de relation, mais encore une fois, cet imaginaire guerrier, cette manière effectivement de replacer le conflit au centre finalement des dynamiques de pouvoir et de leadership. On peut s'interroger aussi bien du côté américain que du côté chinois, là aussi, de la fonction de ce conflit, puisque d'un côté, on a un Donald Trump embourbé dans une crise économique, sanitaire et désormais raciale, d'ailleurs, à 5 mois de ces prochaines élections américaines, qui multiplie donc à la fois les tweets et finalement ces tours de bras, ces tours de... Voilà, cette manière, effectivement, peut-être d'enchaîner aussi les effets de manche avant tout. Et de l'autre, on a effectivement le président Xi Jinping qui exacerbe cette volonté de puissance chinoise alors même que le pays accumule les freins à son développement. Et je vais citer ici Pierre-Antoine Donnet et son livre Le Leadership en question qui était publié aux éditions de l'Aube et dont on avait déjà parlé ici. Pollution, dette publique, vous l'avez vous-même signalé au début de votre intervention. Deux leaders embourbés dans des contradictions internes et qui vont utiliser aussi le conflit, la mise en scène de leur conflit comme un masque sur le feu finalement.
Oui, alors tout à fait, vous avez raison d'ailleurs de souligner certaines des faiblesses et contradictions du système chinois, parce qu'on a toujours tendance, d'ailleurs c'était le cas aussi pendant l'Union soviétique, à surestimer nos propres faiblesses et à avoir une forme de rationalité et de perfection chez l'autre. Et effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de critiques, beaucoup de contradictions en Chine. Vous avez mentionné une croissance qui ralentit, une gestion aussi assez contestée de la pandémie, ou effectivement la pollution. Alors, dans le cas des États-Unis, bien sûr, il est vrai que Donald Trump va vouloir agiter la question de la menace chinoise à des fins électorales. Il est aujourd'hui dans une situation politique qui est compliquée. Il espérait pouvoir se présenter en novembre face à son adversaire démocrate avec des chiffres économiques qui étaient jusqu'alors très bons. Alors, dans quelle mesure doit-on lui attribuer ou non, c'est un autre sujet, mais ils étaient objectivement bons quand on regardait le taux de croissance et les taux de chômage qui auraient fait pâlir les Européens. Aujourd'hui, les États-Unis ont un taux de chômage qui n'a jamais été vu depuis la Grande Dépression, qui est autour de 15 ou 16 % et va être frappé par une récession massive en 2020, comme la plupart des grandes économies mondiales. Et en plus de ça, effectivement, des conflits raciaux et identitaires et des chiffres de sondage. Alors qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, puisqu'on était nombreux à s'être trompés en 2016. Mais aujourd'hui, des sondages qui ne sont pas bons pour Donald Trump. Mais je pense qu'il faut... Et donc, effectivement...
Enfin, parce que c'est la première fois, d'ailleurs, que... Pardon, je vous coupe, mais c'est la première fois que les sondages baissent pour Donald Trump.
Alors, les sondages... Donald Trump a toujours été clivant et relativement impopulaire. Il a gardé toujours un soutien assez fidèle de sa base, avec à peu près 90% des électeurs républicains qui le soutiennent depuis le début, mais effectivement, il a toujours eu un taux de soutien d'à peu près 40% de la population américaine et 55% d'impopularité. La question, évidemment, lors d'une élection, c'est la mobilisation de sa base. S'il a une base plus fidèle que le candidat démocrate, ce qui s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton, vous rappelez-vous d'ailleurs, il a perdu le vote populaire, mais il a réussi à mobiliser ses électeurs dans quelques états clés et les fameux swing states dont on parle tant aux États-Unis qui font l'élection via le collège électoral, le Michigan, l'Ohio ou la Floride, ça suffit à remporter une élection. Et ça pourrait suffire une fois de plus en 2020. Il pourrait perdre le vote populaire, même avec une marge plus importante qu'en 2016, et pourtant remporter l'élection de peu grâce à ses électeurs dans ces États. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on assiste à un décrochage depuis quelques semaines, depuis le début des manifestations Black Lives Matter, où je pense que beaucoup, y compris de ses électeurs, ont le sentiment... qu'il gèle de lui sur le feu, qu'il joue la radicalisation et le conflit dans ce mouvement au moment où on aurait pu espérer attendre une forme d'appel à l'unité, une forme de réconciliation. Donc, moi je reste très prudent puisqu'il y a un mois, les experts nous expliquaient que l'élection se jouerait sur sa gestion de la pandémie et aujourd'hui tout le monde nous dit qu'elle se jouera sur la gestion des questions identitaires et raciales. Donc 6 mois, c'est long. Et effectivement, on peut voir une accélération des tensions avec la Chine que Donald Trump chercherait à exploiter pour pousser ses opposants démocrates face à la contradiction, puisque les démocrates ne pourront pas être vus, et d'ailleurs ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme soutenant la Chine, comme critiquant le président des États-Unis quand il voudra défendre les intérêts des États-Unis face à la Chine. Mais cela étant dit, donc il y a clairement cette dimension électorale. Alors, cette dimension électorale est renforcée en plus par le fait que certains des États clés pour l'élection, et notamment les États de la ceinture rouillée du Nord, les États comme le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, sont des États qui ont été frappés de plein fouet par la désindustrialisation et donc en partie liés aux délocalisations, à la mondialisation vers l'Asie et donc vers la Chine, qui a une dimension économique de politique intérieure aussi hein, dans cette rivalité avec Beijing, et donc il marchera bien dans l'élection. Hein, les discours protectionnistes, les discours critiques de Donald Trump sur les accords de libre-échange avaient justement aussi comme but en 2016 de parler à cet électorat. Mais pour autant, il ne faut pas se faire trop d'illusions, notamment pour les Européens. Une administration Biden sera elle aussi focalisée sur la question chinoise et poussera elle aussi, mettra la pression aux Européens sur la question des investissements chinois en Europe, sur la question des opérateurs télécoms Huawei pour l'obtention des licences 5G. Donc on est ici face à un problème qui est effectivement exacerbé parce qu'on est en période électorale et exacerbé parce qu'on a Donald Trump, mais qui au fond est une tendance lourde de la vie politique américaine qui précède Donald Trump et qui continuera après lui.
Oui, alors vous nous amenez justement sur ce terrain européen en décrivant une situation somme toute très paradoxale, c'est-à-dire pleine de tensions entre à la fois le retrait américain qui était d'ailleurs au cœur de votre livre sur ces illusions perdues, qui étaient celles, quelles illusions perdues des Européens, c'était celles du soutien et de l'investissement et de l'engagement américain aux côtés de l'Europe, en signalant justement la continuité de cette politique de retrait américaine, mais en même temps associé à des messages très forts, très lourds, justement, dans cette redistribution des cartes géopolitiques et géostratégiques. On le voit notamment en Grande-Bretagne, qui est à l'heure actuelle quasiment sommée de tranchées entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, est prise en tenaille de cette confrontation entre la Chine et les États-Unis? A-t-elle une marge de manœuvre? Comment voyez-vous les choses, Benjamin Haddad?
Alors effectivement, l'Europe est prise en tenaille. Elle est prise en tenaille par un allié américain encombrant qui, d'un côté, se retire progressivement et surtout qui ne voit plus l'Europe comme sa priorité stratégique. L'Europe est évidemment au centre de l'échiquier mondial pendant la guerre froide, puisque c'est avant tout sur le continent européen que se jouait la rivalité avec l'Union soviétique. Ce n'est pas vu de cette façon par les stratèges américains. On a vu dans les années 2000, après 11 septembre, une priorité qui a été donnée au Moyen-Orient. Et puis aujourd'hui, un transfert progressif vers l'Asie, vers la mer de Chine. Et donc, les Européens sont vus, notamment par les démocrates, comme des partenaires et des alliés indispensables, mais aussi une critique assez large, hein, alors qu'elle a été vraiment prononcée par Trump, mais une critique assez partagée aux États-Unis sur la question du partage de fardeau, du fait que les Européens n'investissent pas suffisamment dans leur propre défense et dans leur propre sécurité pour être des bons alliés des États-Unis. Effectivement, donc d'un côté, des Américains qui commencent à se retirer et demander aux Européens d'en faire plus et qui vont mettre les Européens sous pression dans les prochaines années pour notamment en faire plus sur la Chine. Et d'un côté, une relation avec la Chine qui est très complexe puisque, je le disais tout à l'heure, l'Union européenne, dans une large mesure, s'est fondée sur l'idée de remplacer les rapports de force géopolitiques classiques par des rapports régis par le droit et par l'économie. Des rapports d'interdépendance gagnant-gagnant, dans lequel, au fond, on peut travailler ensemble au sein d'organisations internationales et les investissements, le libre-échange permet progressivement d'adoucir les relations. Et donc, il y avait cet espoir autour de la Chine, de voir la Chine converger progressivement vers un modèle de coopération avec les États-Unis et l'Europe. Or, ce que voient les Européens depuis quelques années, c'est non seulement un durcissement du comportement et des ambitions de la Chine, mais aussi le fait que les rapports économiques, les rapports commerciaux ne sont pas neutres. Un investissement chinois, ce n'est pas seulement un investissement d'ordre économique qui vise à émettre un profit. C'est aussi un lien de dépendance, c'est aussi un rapport de force politique. Les Européens se sont rendus compte que les investissements chinois venaient souvent avec des formes de conditionnalité, notamment, alors pas tant directement en Europe, mais dans la périphérie de l'Union européenne. On le voit beaucoup dans les Balkans, on le voit beaucoup en Asie centrale avec les nouvelles routes de la soie, qui est le grand projet géoéconomique de Xi Jinping. Bon, pour les Européens, il faut complètement repenser cette relation politico-économique avec la Chine. On voit progressivement une forme d'éveil, de prise de conscience. La Commission européenne, l'an dernier, qui a publié un papier dont on a beaucoup parlé, qui parlait de rival systémique pour la Chine, en disant que la Chine pourrait être un partenaire sur certains sujets comme le réchauffement climatique, mais qu'on voit la Chine progressivement proposer, défendre des règles différentes de l'ordre international que celles que promeut l'Union européenne. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, il y a quelques jours, dire que les Européens avaient été naïfs sur la question chinoise. Et Emmanuel Macron aussi, dire qu'il ne fallait pas seulement être déterminé par les intérêts économiques, mais qu'il fallait aussi comprendre les questions politiques et les défis politiques et stratégiques que représentait la Chine. Le problème pour les Européens, qui auraient beaucoup d'atouts, d'ailleurs, sur cette question de la relation avec la Chine, c'est les divisions au sein de l'Europe.
Oui, mais justement, c'est-à-dire... Comme je suis obligée de vous couper pour pouvoir avoir une dernière question avant de devoir malheureusement terminer cet entretien, en se demandant, parce qu'on est, on parle après une crise qui a aussi révélé énormément de fragilité dans cette coopération même intra-européenne, la difficulté à mettre en place effectivement une solution commune, l'exacerbation aussi bien par les mouvements, par des formes de populisme agitant ces nationalismes, et il n'y a pas que les populistes qui s'en servent de ces notions de nation, l'interdépendance idéale et peut-être l'illusion qui s'efface en ce moment, c'est aussi celle-là, c'est de dire, même au-delà du Brexit, l'Europe est-elle assez dans une santé suffisante pour assumer une action, et qui plus est en faveur d'une coopération internationale, là où elle semble encore dans les difficultés à trouver une solution à 27.
Oui, alors effectivement, c'est l'un des grands défis de l'Europe. Si elle arrive à agir ensemble, elle peut avoir un pouvoir.
Mais vous y croyez à cette Europe libérale qui serait capable de sortir de ses cendres pour justement s'imposer sur ce terrain international ?
En tant qu'Européen convaincu, j'ai tendance à penser qu'on n'a pas le choix et que l'alternative, c'est la Chine et d'autres puissances comme la Russie ou les États-Unis qui nous diviseront, qui nous joueront les uns contre les autres. C'est déjà le cas aujourd'hui avec la Chine qui a des relations privilégiées avec des pays comme la Grèce et la Hongrie. La Grèce, par exemple, qui avait besoin de trouver des investisseurs étrangers pendant la crise et la Hongrie qui s'est tournée vers des modèles autoritaires comme la Russie et la Chine ces dernières années. Et aujourd'hui, ces deux pays qui votent contre le consensus européen sur la question de la protection des droits de l'homme des Ouïghours ou de la liberté de navigation en mer de Chine du Sud. Donc on a effectivement ces défis, mais je crois que le seul bouclier pour les Européens, c'est une Europe unie, c'est une Commission européenne qui peut par exemple contrôler les investissements étrangers pour voir s'ils menacent l'autonomie stratégique de l'Union européenne. C'est une Europe qui investit dans sa propre défense et sécurité, notamment pour être capable au moins de stabiliser certains pays de sa périphérie. C'est une Europe qui est capable de d'imposer son modèle dans les négociations commerciales, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. L'Europe est une puissance commerciale importante qui arrive à imposer des normes et des standards dans les accords de libre-échange. Mais c'est vrai qu'on voit la pandémie, je le disais tout à l'heure, qui a renforcé les tendances préexistantes, donc qui a renforcé...
Benjamin Haddad, on vous a perdu malheureusement. Je crois que c'était la limite de la communication avec Washington. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour éclairer donc cette position européenne au cœur de ces affrontements et de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Un entretien à retrouver en podcast, bien sûr, sur le site et l'application de RCJ. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 8h pour un nouveau journal.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.